Jean-Louis Filk, vous étiez journaliste à Radio Monte Carlo, mais vous avez une deuxième casquette.
Ah oui.
Aujourd'hui.
Ah oui, oui, une casquette beaucoup plus officielle.
Très officielle.
Oh, hein. Très officielle. Je suis administrateur de MMD. MMD, c'est Monte Carlo Média Diffusion. C'est ce qui a remplacé Monte Carlo Radio Diffusion, c'est-à-dire l'entreprise d'État monégasque qui gère toutes les fréquences radio et toutes les attributions radio et qui gère les émetteurs. Les anciens émetteurs de Radio Monte Carlo, donc qui sont situés et à Fontbonne, on en parlait tout à l'heure lorsqu'on parlait de la naissance de cette radio en 1943, les émetteurs du col de la Madone, qui sont tout au sommet derrière la Principauté, un col qui est bien connu des rallymen d'ailleurs, et puis les émetteurs de Roumoule, qui étaient nos émetteurs grandes ondes, qui sont, alors ça, si vous avez l'occasion un jour, Noël, de visiter les émetteurs de Roumoule, il faut se dépêcher parce qu'ils vont être démantelé oui. Complètement les antennes, oui. C'était phénoménal, les émissions grandes ondes. C'était une véritable centrale nucléaire.
Hein. Mais justement, avec Roumoule, Radio Monte Carlo a été la seule périphérique, je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça, qui pouvait émettre du territoire français.
Du territoire français, c'était une particularité, oui. On était radio périphérique parce qu'on avait la raison sociale en dehors de comme RTL d'ailleurs, comme Radio Luxembourg à l'époque, mais nos émetteurs étaient en territoire français. Mais pour revenir à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est vu beau, nous, en 1981. Enfin, nous, pas nous personnellement, mais nos directions, les gens qui, entre guillemets, pensées pour nous, se sont vus beaux, se sont dit Radio Monte Carlo, c'est indestructible, ça c'est la marque, c'est Liebig, quoi, c'est un truc qu'on ne pourra jamais s'en passer. Et puis on s'est vu trop beau, hein, quand les esturgeons connaissent le prix du caviar, ils deviennent prétentieux. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. Voilà, on s'est vu beau et on n'a pas monté la garde. Voilà,
Radio Monte Carlo a utilisé toutes les ondes, courtes, longues, oui. Moyennes, oui. FM, etc., etc.
Absolument, absolument. On couvrait jusqu'au Moyen-Orient, on couvrait l'extrême sud-est de la planète, l'extrême est même, on tapait en Chine, on tapait en Russie, on tapait un peu partout. On avait des émetteurs alors sous gérance qui étaient situés à Malte. L'Afrique du Nord était l'un de nos plus gros réservoir d'écoute. Hein. Algérie, Maroc, Tunisie étaient l'un des plus gros réservoirs d'écoute. Moyen-Orient, etc. etc.
Oui. Et l'onde moyenne, c'était surtout sur l'Italie, absolument. Jusqu'à 65% d'audience.
Absolument, absolument.
C'était incroyable.
C'était phénoménal, phénoménal. Et nous, on connaissait bien ça en sport, d'ailleurs, parce que quand on parlait de sport, les Italiens, ils étaient par dizaines de millions, ils écoutaient sur onde moyenne, lorsqu'on couvrait le Giro, lorsqu'on couvrait le rallye en Italie. Des émissions sportives en général, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs en Italie. Les ondes moyennes étaient... C'était une force phénoménale, les ondes moyennes. Et je reviens à ce que disait Jean-Pierre il y a un instant. Filmer la radio, c'est une connerie sans nom. C'est une connerie sans nom. Ça tue tout. Ça n'apporte rien de plus. Et ça enlève toute la magie de la radio, qui est le plus... Pour moi, hein, mais je prêche un peu... À part parce qu'il est le plus beau média inventé de tout temps.
Il y avait une autre radio qui était assez peu connue aussi, c'était Radio Monte Carlo Moyen-Orient, très importante dans le pays
absolument,
du Levant.
Avec les émetteurs à Malte, justement. Oui, 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 c'était des radios. Alors là, c'était des radios qui étaient très surveillées politiquement. Patrice Serre en parlera certainement mieux que moi.
Il va en parler.
Mais c'était beaucoup plus surveillé parce que là alors, c'était pas du ploum-ploum, tralala, il fallait faire gaffe à ce qu'on disait. Hein. Mais c'était des équipes dédiées, d'ailleurs. C'était des gens qui étaient d'origine ou double nationaux ou d'origine égyptienne, enfin, des gens qui vraiment savaient de quoi ils parlaient.
Il faut parler aussi des radios qui ont appartenu à Radio Monte Carlo.
Oui, oui.
Radio Nostalgie, par exemple.
Nostalgie, Montmartre, à une époque.
Montmartre FM.
Montmartre FM. Et Jean-Pierre, d'ailleurs, était impliqué dans Montmartre FM, si mes souvenirs sont bons. C'était des radios. Oui, oui, on a essayé de se diversifier. On a essayé de se diversifier, mais toujours, on avait un coup, comme les gendarmes et les voleurs, on avait un coup de retard. Quoi. Et on avait toujours le képi à l'envers quand on arrivait, on ne savait pas, et le coup était déjà parti, et c'était toujours trop tard pour nous rattraper. On a essayé, on a inventé des radios FM. Moi je me souviens qu'on a inventé ici à Monaco, dans les années 90, RMC Jazz, RMC Classique, RMC je ne sais plus quoi encore, enfin, avec des animateurs dédiés, des fréquences dédiées qui arrosaient la grande région, mais c'était trop tard, c'était trop tard. Et puis on avait gardé cette structure de radio de grandes radios d'époque. Effectivement, quand Jean-Pierre dit on partait à 3 ou 4 sur un truc, aujourd'hui, vous imaginez un reporter qui partirait aujourd'hui avec un chauffeur, un preneur de son et un, je ne sais pas quoi, un éclairagiste. Mais c'est pas possible. Le type, il part tout seul et il fait tout.
RMC aujourd'hui, ça fait partie des radios qui émettent en hertzien sur Monaco, mais il y en a d'autres des radios qui émettent sur Monaco. Il y en a combien ?
Oh, il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui.
Une trentaine qui émettent sur Monaco, depuis Monaco ?
Qui émettent sur Monaco, depuis Monaco, relayés par justement nos émetteurs, soit à la Madone, au Club de la Madone, et qui émettent sur Monaco. Oui, bien sûr, il y a plein de radios FM d'autres radios qui émettent sur la Principauté de Monaco. Oui, bien sûr. Non, c'est pas un territoire fermé, Monaco. Il faut pas croire. Non.
Est-ce que les jeunes écoutent encore la radio aujourd'hui ?
Et bien, je me pose la question. J'en vois plus qui écoutent la radio. Ils écoutent leur truc enregistré, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là,
on les voit pas écouter la radio parce qu'ils ne l'écoutent peut-être plus sur un transistor, mais sur leur téléphone.
Ben, je ne sais pas.
Ou en voiture, oui, effectivement.
En voiture, peut-être, mais ils podcastent, ils beatcastent, je ne sais pas ce qu'ils foutent, mais j'ai l'impression qu'ils n'écoutent plus la radio comme nous, on écoutait la radio. Ils vont plus chercher il faut que ça aille vite aujourd'hui, quoi. Ils se choisissent des programmes préenregistrés ou ils s'enregistrent des trucs. Je ne sais pas vraiment. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire une enquête là-dessus. Mais je pense qu'à partir de entre 7 ans et 25 ou 30 ans, je ne sais pas si les jeunes écoutent encore beaucoup de radio. J'en sais rien.
Alors voilà une autre des grandes voix d'RMC, du journalisme à RMC, c'est Patrice Gère. Bonjour Patrice.
Bonjour
Gère.
Noël.
Ce n'est pas de Radio Monte Carlo dont nous allons parler ensemble, mais de Média 1. Avant de parler de Média 1, on va vous entendre dans un enregistrement qui n'a pas été fait au Maroc, un pays qui vous est cher, mais à Monaco.
Bonjour à tous. À mes côtés dans ce studio ce matin, studio radio aménagé de façon tout à fait remarquable dans les locaux de Nice Matin. D'ailleurs, Monsieur Michel Vivès, secrétaire général de la rédaction, et qui bien entendu va nous donner tout de suite les grands titres du premier quotidien du Sud-Est et de la Corse de ce matin.
Après l'éboulement de 1000 tonnes de rochers et de pierres, la Mescla restera fermée jusqu'à mercredi. Prudence donc et patience aussi pour les usagers de la RN202. Circulation encore, un nouveau plan pour Nice accompagné d'un croquis pour essayer de sortir le moins mal possible des pièges de la ville. Vuta in paese pour les Corses, 1500 avis déjà recueillis par Nice Matin, tenants et opposants de la loi Jox au coude à coude, 51% de non, 48% de oui, le suspense demeure. Panorama sportif, la finale corse de la Coupe de France qui opposait Ajaccio à Ilrousse a été remportée par l'équipe de la Cité Impériale sur le score de 2-1. Fait divers insolite enfin et encore, mais qui se termine bien, un gérant de société de Saint-Laurent-du-Var a passé une nuit en garde à vue. Il avait utilisé dans une grande surface des billets de 500 francs que sa femme, par inadvertance, avait fait passer à la machine à laver. Pascal avait perdu ses couleurs, bien entendu. Il n'en fallait pas plus pour que le pauvre homme passe, lui, de sale moment, ce qui est un comble, pour de l'argent indûment blanchi.
Voilà, Michel Vivès, vous êtes bien gentil puisque vous me laissez le plaisir de donner le principal titre de votre quotidien ce matin. C'est sur notre opération Nice Matin RMC avec les sigles de ces deux médias dominants de notre région, Presse Écrite, Prêt-à-Parler, et la liste des invités prestigieux, Caroline de Monaco, Yves Montand, César, Emmanuel Béart, Jacques Weber, et puis la Côte d'Azur, bien entendu, toujours à la une. Alors, pour le reste...
Vous souvenez de cet extrait, Patrice?
Non, je ne me souviens pas de cet extrait.
Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là?
Alors, j'étais, je pense, présentateur du journal de 13h et on avait des opérations à l'extérieur en collaboration avec la presse quotidienne régionale. Mais principale de mes activités à Radio Monte Carlo, c'était la matinale. J'ai fait, sur 33 ans de radio, j'ai fait près de 20 ans de matinale et revue de presse et politique internationale, ce qui va nous amener...
À Média 1, on ne va pas parler de Radio Monte Carlo, mais de Média 1 qui n'est pas très connu des Français.
Non,
c'est vrai, c'est
alors,
une radio
pour reprendre
en
un
dehors
peu
de fil leur écoute.
Le fil de ce que disait Jean-Louis Filque sur Radio Monte Carlo, à cette époque, Radio Monte Carlo faisait partie de la Soufirade. Mm-hmm. La Soufirade, qui est une officine qui contrôlait un certain nombre de radios et qui était installée dans un immeuble boulevard Victor Hugo, très discret, Paris, très peu de monde. Et cette Soufirade avait été créée pour prendre la suite de la Soufira, qu'avait été fait par Vichy et les Allemands, et pour effacer un peu tout ça. Mais c'était quand même un organe de contrôle très politique des radios. Jean-Louis a parlé de la Somera, c'est-à-dire la radio au Moyen-Orient. Une anecdote, parce que ce qu'on dit là est plus sérieux, un peu, ça tranche un peu avec les belles anecdotes. La première fois que je suis allé dans les locaux de la Somera, boulevard Victor Hugo à Paris, pour faire une émission enregistrée, parce que je suis allé au Liban aussi dans une autre vie, et il y avait un sigle merveilleux qui était la publicité de la Somera avec la carte du Moyen-Orient. Et le logo de la Somera était à la place de l'État d'Israël. Ce qui fait que les gens qui venaient ne savaient pas qu'il y avait un État d'Israël, mais voyaient tout le contour avec la pub de la Somera au milieu de la carte.
Alors, Médien, c'était quoi le concept de cette radio ? Et c'est toujours quoi ?
Oui, parce qu'elle existe toujours. Elle existe toujours. Alors, Médien, ça a été voulu par le roi Hassan II et par Valéry Giscard d'Estaing pour permettre au Maroc, c'est vraiment quelque chose de très, très politique, hein, pour permettre au Maroc de s'adresser d'une manière un peu différente et de traiter d'une manière un peu différente la politique internationale. Alors, il y a des anecdotes qui sont amusantes, parce que dire ça, c'est une chose, mais le réaliser, c'en est une autre. À Médine, quand je suis allé à Médine, c'était à Tanger.
Tanger.
Il était interdit de parler de politique intérieure marocaine. Donc on n'était habilité que de parler de politique internationale. Mais les choses, dites comme ça, c'est facile, mais c'était une révolution aux médias. D'abord, il y avait une rédaction arabophone, une rédaction francophone, avec des journalistes marocains et des journalistes français. Et le fait qu'il y ait des journalistes français s'appuyant sur la francophonie a donné l'impression, juste titre d'ailleurs, à l'ensemble des auditeurs que ce média était indépendant du pouvoir. C'était un média presque, sinon libre, en tout cas plus indépendant du pouvoir que les radios officielles marocaines.
Est-ce que c'était une façon aussi peut-être indirecte de mettre un peu des bâtons dans les roues aux diffusions algériennes ?
Non, alors la radio a été très très écoutée en Algérie. Hein. Quand j'étais à Médine, dans les années 82, pour dire chose simplement, il y avait 8 millions d'auditeurs sur l'ensemble du Maghreb, c'était considérable. Et c'était évidemment pour contrer un peu les radios algériennes, mais ça avait une diffusion qui allait jusqu'en Mauritanie, en Tunisie et en Algérie. La principale diffusion était sur le Maroc. On ne peut pas s'imaginer aujourd'hui de la révolution qu'a été Médine pour les foyers marocains. Tout le monde écoutait Médine à Tanger. Les chauffeurs de taxi me reconnaissaient à la voix. Donc c'est dire l'importance.
Vous avez fait partie de l'équipe qui a créé Médine ?
Alors non, c'est Philippe Tallois qui était à l'origine de la création de Médine, le professeur hein, de tous ces journalistes. Et moi je suis arrivé dans la foulée de Philippe, c'est-à-dire quand même 8 mois après, enfin tout au début.
Et il y avait qui avec vous ?
Alors avec moi, il y a eu qui m'a succédé, c'est le type qui m'a tout appris dans ce métier, c'est Jean-Robert Cherfis. Hein. Et il y avait des journalistes francophones que j'engageais à tour de route, qui étaient souvent des Français qui habitaient au Maroc, mais surtout des gens qui venaient faire leurs premières armes à Médine et qui ensuite repartaient dans d'autres radios et qui étaient des types... très intéressé par tout ce qui était la politique internationale.
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Le patron, c'est Casalta, hein, celui qui a fondé Pied Médien. C'était l'ancien patron des locaux de Marseille, de la radio de Marseille, et c'est lui qui a fondé Médien. Un type qui est passé à travers toutes les gouttes de tous les régimes. C'était un type assez extraordinaire, hein, parce qu'il avait été nommé par Giscard. Il a fait Mitterrand, il a fait Pasqua, il a fait tout le monde. Hein. Et quand les Français l'embêtaient, il disait que c'était à cause des Marocains. Et quand les Marocains l'embêtaient, il disait que c'était à cause des Français. Et il a pu tenir le cap de cette radio qui a été quand même quelque chose d'extraordinaire.
Médien part pas de rien. Il y avait Radio Tanger auparavant.
Oui,
mais il y a eu un problème en 1956. Tout le monde a été viré. Tout le monde est venu à Radio Monte Carlo. Qu'est-ce qui s'est passé ?
En 1956 ?
Oui. Vous n'avez plus de souvenirs de ça ?
Non, en 1956, 1956 ?
Oui, il me semble.
Ah non.
De Radio Tanger ?
Non, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non.
Et il y a beaucoup de journalistes de Radio Monte Carlo qui sont allés à Médien.
J'ai parlé de Philippe Tallois, mais il y en a aussi plein d'autres. Les noms ne me reviendront pas. Henri Bigot est passé, oui. Jean-Robert Cherfis, je l'ai cité. Il y a eu aussi...
Denis Lemoine
qui est passé un certain temps à Médien. Mais ce qui était amusant, à Médien, on ne se rend pas compte, mais au début de Médien, il fallait faire des programmes en français et en arabe. Et donc, il fallait amener à la radio des disques internationaux. Ces disques internationaux, le directeur général et moi-même parfois et d'autres, on les amenait dans des valises. Parce que pour envoyer un disque au Maroc et passer par la censure, ça prenait 6 mois. Le disque était déjà oublié avant qu'on l'ait programmé. Et à la douane, on était coxés par les Marocains qui regardaient et qui prenaient les disques. Et on a beaucoup de mal à amener les nouveautés sur les antennes de Médias. Mais ça s'est réglé par la volonté du roi.
Mais ça a été quelque chose de très spécifique à Médias, c'est qu'on pouvait entendre les chanteurs arabes qu'on n'entendait nulle part oui. ailleurs dans le Maghreb.
Oui, voilà. C'était, et des écrivains aussi. Il y a Meshkri, il y a Benjelloul avait fait aussi une chronique à Médias. Médias était un truc, un média d'ouverture qui a permis l'expression d'abord sous la protection de la francophonie, sous la protection de la francophonie, l'ouverture à une langue arabe un peu libérée des contraintes. Bon, je vais vous donner un exemple. Dans le journal, au début, le journal francophone, les grands titres de l'actualité, tac, 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 tac. Et quand on écoutait le journal en arabophone, on ne parlait pas arabe, mais les titres de l'actualité, on les connaissait, on savait qu'à Khartoum, ça venait que 3 minutes après. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font pendant 3 minutes? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, c'était la pesanteur de la religion à l'époque et du statut de. Pendant 3 minutes, ils remerciaient Dieu d'être là, ils remerciaient le roi, ils remerciaient le. Et on abordait l'actualité que 3 minutes après. Et on a obtenu qu'ils commencent directement, même dans le journal en arabe, à donner les titres de l'information. Mais ça, c'était une révolution. Révolution que de dire l'État d'Israël et non plus l'entité sioniste. Révolution de dire le Polisario et non plus les mercenaires d'Alger. C'est ça, Médias. C'est la révolution, l'ouverture à la diplomatie par la langue.
Et ça a toujours autant de succès aujourd'hui ?
Alors, Médias a été un succès incomparable. Ça a donné l'ouverture. Maintenant, il y a énormément de médias qui se sont implantés au Maroc. C'est très riche. Il y a des nostalgies. Il y a des programmes marocains. Les radios marocaines elles-mêmes qui existaient se sont complètement modernisées et diversifiées. Il y a un programme très riche. Médias conserve sa place, mais n'est plus dans la situation dominante qu'elle a eue pendant les années 80.
On l'écoute bien évidemment dans les pays du Maghreb, mais est-ce qu'elle va au-delà maintenant en ondes longues ?
Alors, en ondes longues, ils vont partout. Et ils font
jusqu'au Levant ?
Ils font le lien, oui. Ils font le lien avec Africa numéro 1 aussi, qui couvre toute la partie au-dessous du Sahel, où j'ai travaillé aussi, Africa numéro 1 au Gabon, hein, et qui est aussi une radio qui était gérée par la Sofirad, comme la Somera et comme Médias. C'était Radio Monte Carlo était la pépinière d'une sorte de concurrent de RFI. Et quand la Sofirad est morte de sa belle mort, tout ça est terminé. Et il y avait 2 radios internationales françaises et une de trop, certainement.
Merci beaucoup, Patrice Zer.
Merci.
On va reprendre notre souffle avant de retrouver notre dernier invité. C'est notre hôte, le directeur du Nouveautel, qui s'est installé justement à l'emplacement de Radio Monte Carlo.
Radio Monte Carlo. Émission spéciale. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain.
À l'occasion de la fête de la radio, Séquence FM et Radio Éthique réalisent conjointement une émission spéciale à Monaco. Retrouvez sur nos ondes les moments forts de cette journée.
On fête les 40 ans de la libération des ondes et le lancement de la radio numérique DAB+ partout en France.
On l'a dit tout à l'heure, Radio Monte Carlo, avant d'investir les bâtiments du Port Hercule dans ses dernières années à Monaco, était installé boulevard Princesse Charlotte, pour ceux qui connaissent, dans les bâtiments de l'hôtel Prince de Galles. Et lorsqu'RMC est parti du boulevard Princesse Charlotte, retour à l'envoyeur, c'est un autre hôtel qui a repris l'espace. Et cet autre hôtel, c'est le Novotel, et vous en êtes le directeur, Guillaume Rapin, bonjour.
Bonjour à vous.
Ça n'a pas dû être une mince affaire quand même de remodeler l'espace et de construire un hôtel moderne tout en conservant l'esprit Riviera.
Alors effectivement, au moment de la construction, bien évidemment, l'ancienne radio Monte Carlo a été détruite. Et aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape puisqu'on a rénové entièrement l'hôtel autour du thème des Rivieras. avec notamment un esprit Riviera dans notre restaurant et dans l'ensemble des chambres qui ont été rénovées.
Qu'est-ce que c'est l'esprit Riviera ?
L'esprit Riviera, c'est un moment de détente à Monaco pour même les gens qui viennent en business, donc leur apporter une petite bulle d'oxygène et leur donner l'envie de se décontracter. Dans un agenda malgré tout chargé.
Alors vous restez un petit peu dans l'esprit radio quand même avec la proposition que vous faites à vos clients, un studio digital et un espace de coworking.
Alors absolument aujourd'hui...
Où nous sommes d'ailleurs.
Absolument aujourd'hui vous êtes installé dans notre espace de coworking, l'espace Wojo au Novotel Monte Carlo. Et la crise sanitaire nous a aussi amené à nous réinventer et notamment en créant un studio télé dans nos espaces de réunion pour permettre aux sociétés qui en ont besoin de pouvoir filmer et faire des montages vidéo pour leurs messages d'entreprise qu'ils ne peuvent plus délivrer en face à face.
Point d'honneur du Novotel, c'est fonctionner dans le respect du développement durable. Ça se traduit de quelle façon ?
Alors absolument, le développement durable a toujours été au cœur de l'ADN de la marque Novotel. Et donc nous avons à cœur de le faire, alors de manière anecdotique, mais on a créé un jardin potager sur notre terrasse au 7e étage en partenariat avec Terrae à Monaco. On a également installé une ruche, donc on peut avoir une trentaine de kilos de miel oui. du Novotel de Monte Carlo qui sont produits et qui sont utilisés notamment en pâtisserie. On a un nichoir, on a mis un certain nombre de choses, mais au-delà de ces éléments qui peuvent être un peu anecdotiques, c'est surtout au niveau de la consommation énergétique, la vérification de l'ensemble des installations pour éviter les fuites d'eau par exemple ou nous assurer que nous avons des optimisations permanentes de notre consommation énergétique.
Alors là, plus rien à voir avec la radio, vous allez proposer à vos clients un nouveau concept de restauration. Ça viendra aussi des légumes de votre jardin ?
Absolument, la boucle sera bouclée et nous pourrons effectivement dans notre restaurant Azzurra Kitchen proposer une cuisine d'inspiration méditerranéenne avec parfois des produits de notre jardin, notamment les blettes, avec un gratin de blettes par exemple, ou qui peuvent servir pour les barbageois, mais monégasques par excellence.
Vous aviez un concept aussi de brunch à un moment, est-ce qu'il continue ?
Alors absolument, le brunch existait sous forme de buffet il y a quelques années. La crise sanitaire nous a amené encore une fois à revoir comment nous pouvions le faire. Et du coup aujourd'hui nous avons un brunch dominical et tous les samedis également, donc toutes les semaines, servi sous forme de prestation de brunch à l'assiette avec trois formules, une à 25, une à 35, une à 45, avec des menus différents.
Merci beaucoup Monsieur Rapin.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Directeur du Novotel Monte Carlo. Voilà cette émission sur les 100 ans de la radio et les presque 80 de Radio Monte Carlo va se terminer. Elle a eu lieu en direct dans votre hôtel du Novotel Monte Carlo. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Éthique et Séquence FM. Et puis une pensée toute particulière pour Evelyne Tonelli, la directrice de Radio Éthique, et pour notre metteur en onde, Hervé Pichat, sans qui, comme à chaque fois, rien ne serait possible. Quel talent de jongleur pour maîtriser tant d'intervenants à la fois. La fête de la radio, ça continue pendant toute la journée sur Radio Éthique et Séquence FM. Bonne journée, bonne écoute.